Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 14 juin 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Le président Obama se rendra jeudi à Orlando, en Floride, théâtre du massacre de dimanche dans une boîte de nuit gay.
Donald Trump, le candidat républicain, va plus loin que sa proposition d'interdire temporairement aux musulmans d'entrer aux États-Unis.
En France, un policier et sa compagne tués par un djihadiste présumé près de Paris.
L'Éthiopie et l'Érythrée se sont mutuellement accusés hier d'avoir déclenché des combats à leurs frontières.
Au Congo-Brazzaville, le général Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars, promet de répondre aujourd'hui à la convocation de la DGST.
Et ne manquez pas les sports avec le journal de l'Euro 2016, ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Ici aux États-Unis, la Maison-Blanche a annoncé hier soir que le président Barack Obama se rendra à Orlando jeudi pour un hommage aux victimes de l'attaque perpétrée par Omar Mateen et qui a tué dimanche 49 personnes dans une boîte de nuit homosexuelle en vogue d'Orlando. Ce déplacement, a ajouté la Maison-Blanche, est destiné à rendre hommage aux familles des victimes et à montrer sa solidarité avec la communauté. Plus tôt dans la journée, le président Obama avait fait le point sur l'enquête.
Selon le président, il semble que le tireur ait été inspiré par diverses sources d'informations extrémistes sur Internet. M. Obama a néanmoins souligné qu'il n'y avait pas de preuves claires indiquant que cet Américain de 29 ans d'origine afghane était dirigé depuis l'extérieur, ni de preuves directes indiquant qu'il faisait partie d'un complot plus vaste. Il a annoncé son allégeance au groupe État islamique à la dernière minute, a dit M. Obama. Mais il n'existe pas de preuve à ce stade qu'il ait été dirigé par eux, a souligné le président. Le groupe État islamique a confirmé lundi sur sa radio la revendication du massacre d'Orlando.
Ce massacre, le pire de l'histoire des États-Unis, est maintenant au centre du débat dans la campagne pour la présidentielle de novembre. Le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton ont tous les deux parlé de la tragédie hier, Jean-Roger Bion.
Parlant dans le New Hampshire, M. Trump a semblé offrir une nouvelle version de son plan visant à interdire temporairement l'entrée des musulmans non américains aux États-Unis. Quand je serai élu, je suspendrai l'immigration en provenance de régions du monde ayant un passé avéré de terrorisme contre les États-Unis, l'Europe ou nos alliés, s'est écrié Donald Trump. Il s'en est aussitôt pris au président Barack Obama et à son ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton pour des politiques qui, selon Trump, n'ont fait que rendre les États-Unis vulnérables à des attaques. Clinton veut permettre à des terroristes islamistes radicaux d'envahir notre pays. Ils réduisent à l'esclavage les femmes et assassinent les homosexuels. Je ne les veux pas dans notre pays. Pour sa part, Mme Clinton a, dans un discours à Cleveland, lancé un appel à l'unité après la fusillade à Orlando. L'heure est à l'unité pour tous les Américains, quel que soit le nombre de fois où nous endurons des attaques comme celle-ci, l'horreur ne disparaîtra jamais.
The horror never fades.
La candidate démocrate a également préconisé la prise de mesures supplémentaires de contrôle des armes. Elle a promis que la question de ce que l'on appelle les loups solitaires serait une priorité pour elle en cas d'élection à la Maison-Blanche. Et elle a semblé s'insurger contre la proposition de Donald Trump sur l'interdiction de l'entrée des musulmans aux États-Unis. Donc nous devrions intensifier les contacts dans ces communautés plutôt que d'en faire des boucs émissaires ou de les isoler. Il est clair que la proposition initiale de Trump sur les musulmans défraie de nouveau la chronique, ressuscitant les craintes de certains républicains qui ne veulent pas que le candidat lui-même devienne facteur de division en novembre. De récents sondages donnent un grand avantage à Hillary Clinton quand il s'agit de la politique étrangère, mais certains donnent un léger avantage à Donald Trump quant à la question de savoir qui sera plus dur face à la menace posée par le groupe État islamique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Éthiopie et l'Érythrée se sont mutuellement accusés hier d'avoir déclenché des combats à leurs frontières. Combats qui ont fait un nombre important de victimes, des affrontements présentés par Addis Abeba comme les plus graves de ces dernières années entre ces deux pays. Maëlys Hegel.
Les combats ont commencé dimanche et semblaient s'être calmés lundi en fin d'après-midi. Cette fois-ci, ils ont été d'une ampleur supérieure à ceux observés ces dernières années. L'Érythrée a été la première à accuser son voisin d'ouvrir le feu dimanche sur le front de Tsorana, une zone litigieuse entre les deux pays. L'Éthiopie a riposté, disant que les forces érythréennes ont tiré des obus, notamment sur des ambulances civiles. Le porte-parole du gouvernement éthiopien, Getachew Reda, a affirmé que les combats ont fait un nombre important de victimes des deux côtés, mais plus dans le camp érythréen. Un des sujets de contentieux entre les deux pays concerne la ville de Badamé, attribuée à l'Érythrée par une commission de délimitation des frontières soutenue par les Nations Unies, mais que l'Éthiopie continue d'occuper. L'Érythrée a obtenu son indépendance de l'Éthiopie en 1991. Depuis le conflit de 1998-2000, une guerre pour des miettes de terre. Les deux voisins s'accusent mutuellement d'attaques et de soutien à des rebelles.
Au Congo, le général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars, est convoqué aujourd'hui par la Direction générale de surveillance du territoire. Assigné à résidence, l'officier supérieur, arrivé en troisième position le 20 mars, selon les résultats officiels, conteste la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Il avait été convoqué par la DGST en pleine campagne électorale, après la diffusion d'une vieille vidéo le montrant en train de discuter d'une apparente tentative de coup d'État. Le général Mokoko a confirmé à VOA Afrique qu'il va répondre à cette convocation.
Je vais y aller, puisque de toutes les façons, il n'a jamais été dans mes intentions de me soustraire à l'action de justice. Si les autorités judiciaires pensaient que j'avais à être interpellé par la justice, bon, il n'a jamais été dans mes intentions de ne me soustraire à quelque action de la justice que ce soit. Donc je me rendrai bien à cette convocation.
Et vous n'en craignez pas d'être arrêté ?
Et écoutez, dans ce pays, tout est possible. Dans ce pays, tout est possible. Et quand vous voyez depuis le 9 février jusqu'à présent ce à quoi j'ai été soumis, bon, je ne serai plus étonné par quoi que ce soit. Ça fait quand même plus de 70 jours. Je suis assigné à résidence sans que cela ne m'ait été notifié.
Le général Jean-Marie Michel Mokoko joint à Brazzaville. Vous pourrez le suivre encore dans la deuxième partie de cette édition.
Au Nigeria, un représentant de la Fédération de football a dit que les joueuses lesbiennes sont responsables des mauvaises performances de l'équipe nationale féminine, des propos qui ont déjà été condamnés par la FIFA dans le passé, Claire Morin-Gibourg.
L'équipe des Super Falcons était la meilleure équipe de football féminin du continent. 9 victoires sur 11 éditions de la Coupe d'Afrique. Elle a été présente à toutes les Coupes du Monde depuis 1991. Mais cette année, l'équipe féminine nigériane n'a pas été performante aux Jeux africains de Brazzaville et n'a même pas été qualifiée pour les Jeux olympiques de Rio. Seyin Akunwunmi, vice-président de la Fédération nigériane de football, explique ses mauvais résultats par les relations homosexuelles au sein de l'équipe. Le lesbianisme tue les équipes et les gens ont peur d'en parler, s'est-il plaint ouvertement à Ibadan, dans le sud-ouest du pays. Ses commentaires ont été largement repris hier par la presse locale. En juin 2011, l'entraîneuse Eukaria Uche avait déclaré que l'homosexualité est moralement condamnable, admettant qu'elle avait même renvoyé des lesbiennes de son équipe. Elle s'était attiré les foudres de la FIFA. L'homosexualité, interdite au Nigeria, est passible de 14 ans de prison depuis janvier 2014.
En France, un policier a été tué de plusieurs coups de couteau lundi soir devant son domicile dans les Yvelines, près de Paris, où son agresseur, se réclamant du groupe État islamique, s'est retranché et où sa compagne a été ensuite retrouvée morte.
Et puis les États-Unis ont annoncé avoir pour la première fois utilisé leurs hélicoptères d'attaque Apache contre le groupe État islamique en Irak, progressant d'un cran dans leur engagement militaire contre les djihadistes. La première frappe des hélicoptères, qui a eu lieu dimanche dans la vallée du Tigre, a été approuvée par le gouvernement irakien, a indiqué un porte-parole du Pentagone.
On passe à présent au journal de l'Euro 2016, présenté par Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
L'Italie frappe fort d'entrée en battant la Belgique 2-0 hier à Lyon.
Oui, dans le choc du groupe E, l'Italie a puni la Belgique grâce à des buts d'Emanuele Giacchellini après la demi-heure de jeu et de Graziano Pelle en fin de match. Les Belges se sont heurtés à une défense italienne parfaitement organisée. L'Italie, annoncée comme moribonde, fait donc taire toutes les critiques et se retrouve première de ce groupe ce matin, puisqu'hier, Irlandais et Suédois n'ont pu faire que match nul, un but partout. Au Stade de France, les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic se sont fait bouger et logiquement, ce sont les Irlandais qui ouvrent le score en début de seconde mi-temps par Houlahan. Malheureusement, les Verts allaient céder face à la pression des Suédois et c'est Clark qui marque contre son camp. Un partout, score final entre les deux équipes qui ne profitent donc pas de la défaite de la Belgique.
Le champion d'Europe en titre s'est imposé pour son entrée dans la compétition.
Petite victoire, 1-0 en toute fin de match pour les Espagnols face à la République tchèque. Piqué inscrit l'unique but de la rencontre. Résumé de ce match avec Christian Mpanzou, le correspondant de VOA Afrique en France.
Poussive, laborieuse, voire médiocre, l'Espagne est loin d'avoir convaincu face à la République tchèque. Certes, le jeu est toujours aussi léché, les facilités techniques sont largement visibles chez les Espagnols, mais à trop vouloir faire tourner le ballon, les hommes de Vicente del Bosque ont eu bien des difficultés à mettre à mal la défense tchèque. Des Tchèques qui n'ont pas du tout été ridicules d'ailleurs, dominés au niveau de la possession du ballon. Les joueurs de Pavel Verba ont principalement joué en contre et ont mis en danger David De Gea à plusieurs reprises. Le gardien espagnol a même dû être sauvé par son coéquipier Cesc Fabregas dans le dernier quart d'heure pour éviter l'ouverture du score. La délivrance pour les Espagnols intervient à la 87e minute de jeu. Andrés Iniesta adresse un centre parfait à Gérard Piqué qui trompe le gardien de la tête. Victoire de l'Espagne 1-0 donc. Prochain match vendredi pour les Ibériques face à la Turquie avec en tête l'envie de livrer une meilleure prestation. Depuis Paris, Christian Panzou pour VOA Afrique.
Le groupe F démarre son tournoi ce mardi.
Autriche, Hongrie et Portugal-Islande ce mardi. À noter que ce sera le premier match officiel de l'Islande dans un tournoi international. Le sélectionneur des Islandais affirme ne pas vouloir mettre en place de plan anti-Cristiano Ronaldo.
On reparle hooliganisme.
Après les menaces d'exclusion de la compétition brandies par l'UEFA contre l'Angleterre et la Russie, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné hier plusieurs hommes à des peines allant de 6 mois d'emprisonnement avec sursis à 2 ans, dont un ferme. Des interdictions de stade contre des Français ont également été prononcées, mais également des interdictions de territoire national pour les étrangers. Et ce, vous vous en souvenez, à la suite des violences qui ont opposé les supporters en marge du match Angleterre-Russie, c'était samedi à Marseille. Ces bagarres qui ont malheureusement inspiré notre consultant, c'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
Les organisateurs de l'euro appréhendaient à juste raison le risque terroriste. Mais c'est un autre bras de l'hydre qui a poussé. Le hooliganisme que l'on croyait maîtriser s'est invité à la fête du football dès la première journée. Le mot et le mal sont nés en Angleterre. Le continent, lui, l'a découvert à l'occasion de la finale tragique au stade du Essel, qui avait laissé sur le tapis pas moins de 40 supporters de la Juventus de Turin, victimes des hordes vandales venues de Liverpool. Insidieusement, le phénomène est devenu une mode, un art de vivre, à peine condamné. Le hooligan ou extra d'aujourd'hui n'est plus un Britannique, n'est plus issu des couches modestes frustrées, puisque les spectacles coûtent cher. Mais c'est un homme ordinaire qui, le week-end, assimile les rencontres de football à un défouloir et pire, à un combat de guerriers, puisque tous les symboles ou ingrédients du nationalisme exacerbé sont présents. Le drapeau, les écussons, les hymnes, présents des chefs d'État, le chauvinisme, la soif de vaincre à tout prix. Si les Marseillais et les Niçois ont connu l'espace de 3 jours des scènes de guerre, des pugilats collectifs et des hymnes sifflés, c'est qu'il y a un mélange de genres que seule la bêtise autorise. Il est plus que temps de revenir à l'éthique sportive qui, depuis l'Antiquité, a inspiré la notion de trêve olympique. À bientôt.
Merci pour ce journal de l'Euro. En bref, la Copa América.
Match nul, un partout entre le Mexique et le Venezuela. Et dans l'autre rencontre, cette nuit, Idrissa, la Jamaïque affrontait l'Uruguay.
L'Uruguay a battu la Jamaïque 3-0 dans le groupe C, lundi à Santa Clara, en Californie.
Un mot, Idrissa, de basket NBA. La grande finale, Golden State, a-t-il été sacré champion NBA cette nuit lors du 5e match contre Cleveland?
Cleveland, mené par LeBron James et Kyrie Irving, s'est imposé 112-97 lundi dans la salle de Golden State. Golden State mène toujours dans cette finale 2016, 3-2, mais le prochain match jeudi aura lieu dans la salle des Cavaliers, c'est-à-dire à Cleveland.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les forces armées du Cameroun, du Nigeria et du Bénin organisent une offensive dans la région du lac Tchad et la forêt de Sambisa, où se trouvent les dernières bases de Boko Haram, pendant que le Niger et le Tchad annoncent une attaque contre les terroristes au Niger. Il s'agit là d'une réponse aux attaques des djihadistes nigérians qui, ce mois-ci, ont coûté la vie à 26 militaires au Niger. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
Boko Haram, tu auras de mes nouvelles. Boko Haram a touché mes parents sans me demander. Boko Haram.
Cette chanson par les militaires camerounais est désormais considérée comme l'hymne des rassemblements chaque fois qu'ils sont appelés à lutter contre Boko Haram. Le colonel Didier Badjek, porte-parole des forces armées camerounaises, explique qu'après leur attaque au Niger, Boko Haram a continué son terrorisme dans le lac Tchad et les forêts de Sambisa.
Je veux vous dire qu'à cet endroit, il ne se passe pas d'heure sans que cette zone ne soit alimentée en feu nourri. Et au moment où nous nous trouvions, il y a une rafale qui est venue du côté d'en face, et rafale à laquelle nous avons répondu énergiquement jusqu'à épuisement de toute riposte.
Le général Jacob Kodje, l'un des commandants des troupes camerounaises contre Boko Haram, explique leur stratégie dans cette nouvelle attaque dans laquelle plus de 1000 combattants sont impliqués.
This line of defense is the infantry and supported by the artillery.
Il dit que les militaires sont déployés à partir de Mogodé jusqu'à Zélevet au Cameroun et dans la zone du lac Tchad.
From Zélevet till Lake Tchad, it is more than 400 kilometers.
Selon lui, leur stratégie consiste à empêcher tout renforcement par les terroristes à partir de Sambisa. Cette offensive est une réponse aux dernières attaques de Boko Haram dans la ville de Bosso au Niger. Attaque dans laquelle 26 soldats ont été tués. Le Niger a également annoncé la mort de 55 terroristes et l'Organisation internationale des Nations unies annonce 55 000 déplacés. Après cet incident, le président tchadien Idriss Déby Itno a décidé de déployer 2 000 militaires au Niger. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko déclare qu'il ne reconnaîtra jamais l'élection du président Denis Sassou Nguesso, quel que soit le prix à payer. Assigné à résidence, il affirme qu'il va répondre aujourd'hui à la convocation de la Direction générale de surveillance du territoire DGST. Mais quelle solution possible de sortie de crise? Éric Manirakiza a joint à Brazzaville le général Jean-Marie Michel Mokoko qui dit ignorer le sort qui l'attend.
Dans ce pays, tout est possible. Et quand vous voyez depuis le 9 février jusqu'à présent ce à quoi j'ai été soumis, bon, je ne serai plus étonné par quoi que ce soit. Hein, ça fait quand même plus de 70 jours. Je suis assigné à résidence sans que cela ne m'ait été notifié. Hein, pendant pratiquement un mois, on a interdit que je puisse m'approvisionner en vivres. Ils sont capables de faire ce qu'ils veulent. Au moins, je considère que je suis victime de l'arbitraire. Ce n'est pas possible qu'on puisse traiter quelqu'un de cette manière. Hein, au point où, à un moment, bon, ma famille a même contacté la Croix-Rouge internationale à Genève, qui a contacté celle de Kinshasa et qui a transmis les instructions ici à Brazzaville. Et la Croix-Rouge n'a jamais pu obtenir l'autorisation de me rendre visite pour m'approvisionner en vivres. Alors, on est dans quel pays?
Et selon vous, comment cette affaire va finir? Et
je n'en sais rien. Ça sera selon le bon plaisir de ceux qui dirigent ce pays. Puisqu'ils peuvent vous embastiller comme ça. Hein, ils peuvent vous mettre en résidence surveillée sans tenir compte des règles. Ils peuvent vous imposer des traitements dégradants. Donc, ils sont capables de tout. La seule chose, c'est que, bon, les médias comme les vôtres sont au courant de ce qui se passe ici. Ma petite personne ne compte pas. et qu'au moins l'opinion nationale et l'opinion internationale découvrent ce qui se passe ici au Congo, et qui était jusqu'à présent peut-être méconnu, et qu'à la faveur de ce scrutin, bon, le monde entier sait désormais ce qui se passe ici au Congo. Donc en quelque chose, malheur est bon.
Est-ce que vous envisagez à composer avec le président Sassou, ou vous êtes prêt à continuer votre combat, à aller jusqu'au bout?
Si on veut me tuer pour ça, alors ils n'ont qu'à le faire. On ne doit pas résoudre ce problème à travers une solution individualisée de mon coco. Le pays est bloqué, le pays connaît une crise multidimensionnelle. Si on aime ce pays, alors il faut faire un dialogue inclusif où nous allons mettre tous ces problèmes-là sur la table. Je ne suis pas un va-t-en-guerre comme on veut me présenter aux yeux de l'opinion. C'est pas la contrainte qu'on va me faire accepter des résultats que j'ai rejetés depuis le premier jour. On va peut-être me contraindre physiquement, oui, peut-être. En me restreignant mes droits, peut-être. Et psychologiquement et moralement, bon, on va pas me contraindre. C'est pas possible, quand même. Oui, je veux bien garder mon calme et tout ça, mais quand on est en face des aberrations comme ça, bon, on peut perdre son calme. À la limite, c'est insupportable, quoi. Inacceptable.
Le général Jean-Marie Michel Moukoko, joint à Brazzaville. Au Sénégal, nouvelle étape dans la partie de bras de fer entre syndicats de l'enseignement et le gouvernement. De Dakar, notre correspondante Sorna Natambay.
C'est peut-être la fin d'une longue et rude bataille. Après plusieurs mois de grève, les syndicats d'enseignants ont décidé de suspendre leur mot d'ordre. C'est à la suite d'une médiation menée dans les deux cités religieuses, Touba et Tiwawen. Mamadou Lamine Diante, coordonnateur du grand cadre des syndicats de l'enseignement.
On aurait pu le faire avant d'arriver à Touba, mais à partir de Touba, nous acceptons la demande formulée par Sidi Makhtar Mbake, régional des Mourides, et demandons aux camarades également solennellement de restituer les notes, de participer au conseil de classe. Mais évidemment, il y a encore du chemin à faire.
La rétention des notes était la dernière stratégie adoptée par les grévistes. Pour montrer sa fermeté, le gouvernement avait sorti un communiqué vendredi dernier pour lancer un ultimatum de 2 jours aux enseignants. Ceux qui refuseraient de répondre aux ordres de réquisition risquaient de graves sanctions, notamment la radiation. Les mesures devaient prendre effet ce lundi, mais le gouvernement a apparemment décidé de surseoir à sa décision. Toutefois, Marie Sibi Faye, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale, ne veut pas être formelle.
Je ne peux engager aucunement l'État. Je ne peux qu'apprécier positivement ce qui a été fait. Et ça, je peux le faire, dire que le gouvernement est dans les dispositions de dialogue, d'échange, parce qu'en réalité, il a toujours marqué sa disponibilité à dialoguer avec l'ensemble des acteurs.
Du côté des élèves, c'est le soulagement, surtout à l'approche des examens de fin d'année. Ils pourront enfin avoir leurs notes.
Je suis rassuré. Parce qu'on n'a pas pu, on savait pas tout ce qu'on avait acquis durant tout le semestre, depuis le début de l'année.
On est content qu'on puisse enfin savoir ce qu'on a fait pour savoir où on se trouve dans nos notes.
Cette médiation plutôt réussie des chefs religieux laisse un goût amer aux organes chargés de faciliter le dialogue, comme le Haut Conseil du Dialogue Social ou encore le médiateur de la République. Ils n'ont rien pu faire pendant des mois malgré plusieurs rencontres. À noter également que les syndicalistes ne veulent rien lâcher de leurs différents points de revendications, surtout ceux relatifs aux indemnités. Sorna Natambay, Dakar, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Sénégal, à Dakar, sur 102 FM.
Au total, 1000 jeunes Africains prendront part cette année au programme Mandela Washington, le Fellowship of Young African Leaders Initiative, le YALI, qui est prévu du 17 juin au 4 août 2016. Parmi ces jeunes figurent 12 Togolais, de Lomé Kayi Lawson.
Les jeunes Togolais sélectionnés pour le programme Mandela Washington Fellowship 2016, dans leur diversité, convergent vers un idéal commun: impacter positivement la société togolaise. Et pour y arriver, chacun, en plus des actions qu'ils mèneront ensemble, a un projet propre à lui et dans la plupart des cas s'oriente vers le social. Rafiou Lassissi est un handicapé moteur, ce qui ne l'empêche pas de militer pour une noble cause.
Je suis dans la filière Civic Leadership. Je compte militer plus pour les personnes en situation de handicap. Ce n'est pas si aisé pour nous de vaquer à nos occupations professionnelles. L'accessibilité des bâtiments que nous avons au Togo, imaginez que ce soit un bâtiment à étage et là, on a beaucoup de problèmes.
Si l'accessibilité des bâtiments publics tient à cœur à Rafiou Lassissi, Emerson Foli Segbedi, malvoyant de son état, veut accompagner les personnes vivant avec un handicap visuel à plus d'autonomie financière.
Je vais aller étudier dans le domaine de business and entrepreneurship, ce qui va me permettre, dès mon retour, de pouvoir être un mentor parfait, si je peux le dire ainsi, pour mes amis, personnes non-voyantes, qui sont des artisans, qui travaillent manuellement. Et en fait, le but pour lequel j'ai choisi business and entrepreneurship, c'est pour que dès mon retour, je puisse leur montrer les outils nécessaires pour qu'ils puissent s'autosuffire en fait dans la vie.
Abra Enyona Messan, elle aussi, compte s'attaquer à une couche vulnérable de la société togolaise, la population des ghettos.
Dans les ghettos, vous avez pas mal de jeunes qui ne sont pas à l'école, pas parce qu'ils le veulent forcément, mais il y en a qui aimeraient bien aussi avoir une opportunité d'éducation ou de formation. Il y a aussi les femmes dans ces milieux-là, avant qu'on ne parle de planning familial, qui ira les sensibiliser à ces choses-là. Dans mon programme, c'est ce à quoi je pense.
Ce programme initié par l'actuel président des États-Unis, Barack Obama, pourra-t-il continuer avec le départ de ce dernier de la Maison-Blanche? C'est la question qui taraude l'esprit des jeunes Africains aspirant au Mandela Washington Fellowship. Point besoin de s'inquiéter, répond l'ambassadeur américain David Gilmour.
Je pense que c'est sûr que ça va poursuivre. Le Congrès américain a donné des fonds pour la continuation du programme. Et c'est évident que nous, les États-Unis, nous sommes très engagés avec les jeunes de l'Afrique. Ce sont les leaders de la prochaine génération.
Pour être un bon leader, les Yali Togolais 2016 tracent des pistes.
N'importe qui, dans ce qu'il fait, s'il le fait avec du cœur, ça peut l'amener très loin.
Quoi que vous fassiez, faites-le avec excellence.
Faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites pour impacter.
My handicap is my power. Mon handicap, c'est en fait mon pouvoir. Mettez toujours de la rigueur dans ce que vous faites et ça ne fera que vous retourner en bien.
Les 12 Yali Togolais s'envoleront le 16 juin prochain pour les États-Unis. Ils y suivront, comme les 988 autres jeunes Africains, une formation de 6 semaines dans des universités américaines, principalement dans 3 filières, à savoir business et entrepreneuriat, leadership citoyen et administration publique.
Then you are welcome to Yali.
Yali, une composition de Rafi Olasisi. Kay Nelson, Lomé, VOA Afrique.
We Yali, for Africa, new generations. We Yali, for the world peace and change makers. From African network builders, young we are, African leaders.
Merci Kay Lawson. À présent, la Minute Écho avec Bagassi Koura.
Le président indien Pranab Mukherjee est attendu ce mardi à Abidjan dans le cadre d'une visite officielle. Selon l'agence AIP, un forum économique ivoiro-indien est prévu dans la journée à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, au centre des affaires du plateau, suivi d'une rencontre entre les deux gouvernements au palais présidentiel. Un soutien de 6,9 milliards de francs CFA de l'Union européenne aux filières bananes et sucre en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite hier. Selon l'agence APA, ce soutien vise à améliorer la qualité de la production et des conditions de vie des travailleurs à travers la signature de plusieurs contrats. Accord de partenariat économique entre l'Union européenne et 6 pays d'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud. L'accord signé vendredi vise à renforcer le traité commercial de 60 milliards d'euros par an déjà existant entre l'UE et les 6 pays de la SADC. Ces derniers exportent chaque année quelque 30 milliards d'euros de produits vers les 28 pays de l'UE, essentiellement des métaux et des minéraux. Le franc CFA a encore de l'avenir, c'est l'assurance donnée ce lundi par le ministre gabonais de l'économie Régis Imongol. Depuis Paris, il estime que le CFA a constitué un élément de stabilité économique dans les 15 pays d'Afrique subsaharienne qui l'utilisent. Le CFA, nom donné à deux monnaies distinctes et utilisé par 155 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre, est lié à l'euro par un système de parité fixé, mais les États africains doivent déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idrissa Sidoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.